Le commandant des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique a lancé un avertissement sévère aux ennemis, affirmant que les forces armées iraniennes ne connaissent aucune limite lorsqu'il s'agit de protéger la sécurité du pays. Un Palestinien a été tué après avoir blessé plusieurs soldats israéliens et des colons lors d'une opération en Cisjordanie occupée, et en Somalie au moins 100 morts dans le double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le commandant des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique a lancé dimanche 30 octobre un avertissement sévère aux ennemis, affirmant que les forces armées iraniennes ne connaissent aucune limite lorsqu'il s'agit de protéger la sécurité du pays. Le général de brigade Alireza Tangsiri a fait ses remarques alors qu'il s'adressait à un rassemblement de hauts gradés de la marine du CGRI faisant référence aux récentes émeutes en Iran et à une attaque terroriste visant un sanctuaire sacré dans le sud du pays. « Nous détruirons la sécurité de toute partie qui tenterait de nuire à notre sécurité et nous étoufferons toute menace dans l'œuf en surveillant minutieusement son origine », a déclaré Tangsiri, évoquant l'attentat terroriste dans la ville méridionale de Shiraz, à la suite duquel 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées, il a déclaré. Lorsque l'ennemi a découvert que sa pression maximale contre l'Iran avait échoué, il s'est lancé désespérément dans l'assassinat de nos civils innocents d'une manière méprisable. Il a également noté que malgré toutes les sanctions et les obstacles auxquels l'Iran est confronté au cours des 40 dernières années, il a été en mesure de surmonter tous les obstacles et d'aller de l'avant. Il a déclaré que cet incident terroriste unirait la nation iranienne plus que jamais et que l'Iran donnerait certainement une réponse appropriée à ceux qui sont derrière cet attentat. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a mis en garde contre les conséquences de la présence étrangère dans la région. Lors d'une conversation téléphonique dimanche 30 octobre avec son homologue azerbaïdjanais Ceyhun Bayramov, le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré la ferme opposition de l'Iran à toute présence étrangère dans la région, soulignant que la coopération entre les pays de la région est la clé de leur paix et de leur sécurité. Réitérant la position de principe de l'Iran qui repose sur le respect de l'intégrité territoriale des pays de la région, y compris celle de la République d'Azerbaïdjan, le haut diplomate iranien a souligné « La sécurité de la région est une affaire collective. Nous considérons la sécurité de la République d'Azerbaïdjan comme la nôtre et celle de toute la région. Nous déclarons notre opposition à tout déploiement de forces étrangères dans la région qui est jugée contraire à la paix, à la stabilité et à la coopération régionale. » La République islamique d'Iran, a-t-il fait savoir, est d'avis que la présence étrangère complique le statu quo dans la région. Seuls les mécanismes régionaux pourraient aider à résoudre les problèmes de la région, y compris le format 3+3 de coopération entre les trois pays du Caucase du Sud que sont l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, plus la Russie, la Turquie et l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a aussi rappelé que l'Iran poursuivrait invariablement ses efforts pour résoudre les différends entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Pour sa part, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères a loué les efforts de l'Iran en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Il a également fait part de l'opposition de Bakou au déploiement de forces étrangères dans la région, soulignant l'importance de la poursuite de la coopération régionale, y compris dans le cadre du format 3+3. Bayramov a déclaré que des contacts directs et réguliers entre les homologues iraniens et azerbaïdjanais indiquaient la profondeur des relations entre les deux pays. « Nous apprécions et respectons ces relations », a-t-il dit, avant de saluer la prochaine visite du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, en Azerbaïdjan, la qualifiant d'étape importante vers l'essor des relations bilatérales. Les forces israéliennes ont tué un autre Palestinien à la suite d'une opération à la voiture bélier qui a blessé 5 colons près de la ville de Jericho en Cisjordanie occupée. Le centre d'information palestinien, citant des médias israéliens, a déclaré qu'après l'attaque de dimanche, les forces du régime ont abattu l'homme palestinien qui conduisait la voiture au sud de Jericho. Plus tard dans la journée, le ministère palestinien de la Santé a identifié l'homme comme étant Barakat Moussaouda, 49 ans, du village d'Al-Ezariya, à l'est de la ville occupée d'Al-Rotz. Il a ajouté que Da avait succombé aux blessures qu'il avait subies lors des tirs israéliens, près du carrefour de Nabi Moussa, au sud de Jéricho. Des sources médicales israéliennes ont déclaré que les soldats et les colons blessés avaient subi différentes blessures à la suite de l'incident. Ils ont ajouté que le conducteur a d'abord percuté des Israéliens près du village de Nabi Moussa, puis a continué à conduire et a percuté un arrêt de bus, blessant d'autres personnes. Les colons blessés ont été évacués vers les hôpitaux d'Al-Quds occupés. Le Front populaire de libération de la Palestine a publié une déclaration saluant l'opération héroïque en Cisjordanie. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, a également salué l'opération, affirmant qu'elle avait blessé 6 soldats et colons israéliens. Le mouvement du djihad islamique palestinien a également réagi à l'opération ce dimanche, affirmant qu'elle prouve une fois de plus la vitalité de notre peuple et la valeur de nos combattants pour frapper l'ennemi à Jenin, Naplouse, Al-Khalil et Ramallah. L'attaque signalée est survenue au milieu de raids israéliens fortement intensifiés dans toute la Cisjordanie à la recherche d'hommes armés palestiniens présumés responsables d'une série d'attaques meurtrières contre les forces israéliennes par les forces de la résistance palestinienne qui a commencé en mars. Plus de 100 Palestiniens ont jusqu'à présent été tués lors de la brutale répression du régime sioniste contre les résidents autochtones de Cisjordanie. Samedi, 4 Israéliens et un Palestinien ont été blessés dans une attaque à l'arme à feu près d'un poste contre les Israéliens dans la ville occupée d'Al-Khalil, également connue sous le nom d'Hébron en Cisjordanie. Le régime sioniste a occupé un excès à Cisjordanie, y compris Al-Quds Est, dans une guerre d'agression fortement soutenue par l'Occident en 1967. Depuis, il a parsemé le territoire de centaines de colonies illégales qui sont venues abriter des centaines de milliers de colons sionistes qui ont immigré vers la Palestine occupée, principalement d'Europe et des États-Unis. Alors que l'OPEP Plus décide de réduire la production de pétrole brut, la crise du diesel s'aggrave en Europe où les stocks atteignent des niveaux dangereux. La situation n'est pour autant mieux aux États-Unis, qui s'arrachent les cargaisons de diesel initialement prévues pour l'Europe. Le diesel commence à être plus cher que l'essence pour les Européens. Les stocks mondiaux de diesel et d'autres distillats sont en baisse depuis un certain temps, alors que la demande a augmenté, entraînant une pénurie croissante. Certains facteurs ont contribué à cette situation, comme la grève des employés des raffineries françaises qui a aggravé la pénurie et les prochaines fermetures de raffineries pour cause de maintenance. L'Europe achète actuellement beaucoup de diesel russe pour combler le manque, mais cela devra cesser en février prochain lorsque l'embargo sur les carburants russes entrera en vigueur, ce qui aggravera encore une situation déjà compliquée en ce qui concerne l'approvisionnement en distillats moyens dans une région de grande consommation. Il est vrai qu'une grande partie du pétrole utilisé dans la production du carburant dont a besoin l'Europe provenait de Russie. L'Europe et les États-Unis ont commencé à réduire, voire à annuler les importations de pétrole russe avant même la mise en œuvre des sanctions, ce qui pourrait entraîner la pénurie, faire augmenter encore plus les prix en affectant les transports. La hausse des prix ne se reflète pas uniquement dans les carburants, mais aussi dans tous les types de produits. En Somalie, au moins 100 personnes ont été tuées et plus de 300 autres blessées dans le double attentat à la voiture piégée perpétré samedi 29 octobre avec pour cible le bâtiment du ministère somalien de l'éducation à Mogadiscio. La capitale somalienne a déclaré dimanche le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Le nombre de victimes risque d'augmenter, a-t-il averti devant les médias après avoir visité le site de l'attentat tôt dimanche. Un nombre indéterminé de personnes, dont des journalistes et des policiers, figurent parmi les victimes, indiquait plus tôt Sadiq Doudich, porte-parole de la police somalienne. Le groupe terroriste Al-Shabaab lié à Al-Qaïda, qui prend souvent pour cible la capitale et contrôle toujours certaines parties des zones rurales du sud et du centre de la Somalie, a revendiqué l'attentat. Le premier ministre somalien Hamza Abdi Bar, tout en condamnant l'attaque, a prévenu qu'une telle action des Shebab n'invaliderait pas l'engagement du gouvernement à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie a appelé dans un communiqué à des opérations militaires soutenues contre les insurgés afin de mettre fin aux attentats terroristes qui se multiplient dans le pays. Présentant ses condoléances aux familles des victimes, la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie a tweeté qu'elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés et se tient résolument aux côtés de tous les Somaliens contre le terrorisme. Les explosions ont eu lieu alors que le président somalien et les dirigeants des États membres fédéraux, y compris les responsables de la sécurité, se réunissaient pour discuter des opérations offensives en cours contre les Shebab. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Liban. L'antinormalisation restera toujours un principe. Le Liban et Israël ont signé jeudi 27 octobre un accord historique délimitant leurs frontières maritimes après des mois de négociations ardues par l'entremise des États-Unis et des Nations Unies. Iba Morat, l'analyste politique, a rédigé une synthèse basée sur des avis et opinions des analystes et politologues, notamment le professeur d'université expert en droit international Ali Fazlallah. Le professeur d'université Ali Fazlallah a déclaré que le régime sioniste a tenté de profiter de la situation des pourparlers sur la démarcation de la frontière maritime pour briser le refus du Liban à la normalisation avec Israël en envoyant des journalistes et des hommes politiques parmi les membres de la délégation. Il a affirmé que le Liban a sérieusement refusé d'avoir des civils dans la délégation car il s'en tient à sa politique qui s'oppose à la normalisation avec l'ennemi occupant israélien. Le Liban a fermement réitéré à plusieurs reprises que seulement les militaires pourraient être qualifiés pour faire partie d'une délégation devant participer à ce qu'on ne peut vraiment pas qualifier de pourparlers ou discussions, a souligné l'analyse politique assurant qu'il s'agissait plutôt d'une sorte de traité ou d'accord et que les deux délégations ne se sont pas réunies mais sont plutôt assises dans des salles séparées pendant que le médiateur faisait le travail. Il y avait des pressions pour tenir une réunion conjointe ou publier un communiqué conjoint et cela ne s'est pas produit. Celles-ci ne peuvent pas être qualifiées de pourparlers directs, mais il s'agit plutôt d'un traité qui se déroule par l'intermédiaire d'une tierce partie, qui est l'ONU. Et ce n'est pas nouveau pour le Liban, a déclaré Fazlallah. Le Liban dit qu'il cherche ses intérêts, mais ne lâchera jamais ses mandats anti-normalisation. Celles-ci étaient fondées sur trois ensembles de lois connexes. Le code pénal libanais, la loi de boycott d'Israël de 1955 et le code de justice militaire. L'antinormalisation fait également partie intégrante de la culture au Liban. Dans plusieurs événements sportifs, même les joueurs jeunes et adolescents se retirent des compétitions et des tournois internationaux pour montrer une position ferme contre la normalisation avec Israël. Récemment, en août, la joueuse libanaise d'échecs, Maggi Rassem Fawaz, s'est retirée du quatrième tournoi international d'Abu Dhabi après avoir été tirée au sort contre un adversaire israélien. Toujours en février, le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a déclaré que la position du Hezbollah s'est fondée sur la non-reconnaissance d'Israël, affirmant l'opposition du Hezbollah à toute conspiration visant à normaliser, coopérer ou se coordonner avec les occupants israéliens dans le cadre des négociations de la démarcation des frontières. Malgré les prochaines élections dans le régime d'occupation israélien, les nouvelles sur l'accord ont occupé les médias israéliens au cours des dernières semaines, reflétant les inquiétudes et le mécontentement du régime sioniste face à la situation de la démarcation de la frontière maritime. Dans ce droit fil, les médias israéliens ont déclaré que l'accord sur la démarcation de la frontière maritime avec le Liban prouvait la faiblesse du gouvernement Lapid dans la protection d'Israël.